Sur le podcast aujourd'hui, Manu Lemire, la deuxième. En fait, c'est la deuxième de la même journée ensemble.
Exactement.
Ouais. On s'est même pas changé de chandail.
Non.
Ni de casquette.
Hey, tu sais pas changer de chandail, toi, en fait?
Ben, j'ai ôté mon hoodie, finalement.
OK. Ouais. Fait qu'il y a une chance qu'on fait juste deux épisodes.
Exact. Mais c'est ça la vérité du cinéma. C'est qu'on vient et on en fait deux en même temps.
Et voilà.
Manu, merci d'être là. Encore le premier était.
Ça me fait encore
je suis encore plaisir. Un peu choqué du premier. Je suis encore en.
Ouais.
In my feelings. Et aujourd'hui, en fait, sur cet épisode-là, mm-hmm. devrais-je dire, on parle de la peur d'être soi-même. Non, c'est pas vrai. Je reprends ça parce que je m'en allais ailleurs avec ça. C'est pas...
Reviens.
On parle d'être authentique, rester soi-même et les peurs reliées à ça.
Oui.
C'est de même que j'aurais dû le présenter, en fait.
Exactement.
Parlons-en.
Oui.
Parce que c'est important d'être soi-même, d'être authentique si on veut bâtir un beau réseau en entreprise. On reste bien sûr connecté mm-hmm. à l'entrepreneuriat, au monde des affaires. Tu vois quoi en coaching dans les peurs, justement, d'être soi-même, d'être authentique? Je suppose la peur du jugement.
Ben, j'ai la chance d'être exposé à un bassin phénoménal pour faire mes études. T'sais, moi, je regarde les peurs de comme 1000 personnes à chaque semaine. Là. Fait que je suis capable de voir, OK, bon, ben, 975 personnes sur 1000 ont peur de la même affaire. Fait que le truc, c'est que tu leur dis, regardez, là, à go, dites votre peur. Tout le monde dit la même peur. On est instantanément libéré parce qu'on se sent plus seul.
C'est quoi cette peur-là?
Ben, il y en a tellement, mais comme la peur de chaîner, la peur de déranger, la peur de... Justement, je parlais récemment avec mon audience, tu sais, je leur disais, à ce temps, on a peur de s'exprimer même librement sur les réseaux sociaux. Puis je serais curieux de voir dans les commentaires, tu sais, des gens qui écoutent le podcast en ce moment, combien de personnes ici ont eu dans la dernière année envie de dire quelque chose sur Internet, mais se sont restreints de le faire parce qu'ils se sont dit, ben non, je peux pas dire ça. Je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde, sans exception. Pourquoi vit-on dans un monde dans lequel on a peur de faire quelque chose d'aussi fondamental que d'exprimer nos idées? À cause de la peur de se faire cancel, à cause de la peur d'être jugé, à cause de la peur de se faire rejeter. C'est tellement imbriqué dans notre cerveau reptilien que c'est plus important d'être aimé, d'être accepté que de dire la vérité. Parce qu'à l'époque, là, t'es tout seul dans ta tribu qui sait la vérité. Mais si le fait de savoir la vérité et de la dire fait en sorte que t'es exclu, tu meurs. Fait que ton cerveau a appris que c'est plus important d'être aimé et accepté que d'être vrai. C'est fou quand tu penses à ça. Fait que c'est à se demander aujourd'hui pourquoi les gens ont autant de la misère avec l'authenticité. C'est imbriquant dedans d'eux que si tu fites plus, t'es dead. C'est tough.
À une autre échelle, mais je comprends ce que tu veux dire. Au même titre que notre corps aujourd'hui fait pas la différence entre être en danger physiquement en face d'un rhinocéros qui veut t'attaquer puis être jamais... dans le trafic sur la 15 puis est 10 minutes en retard déjà. Là.
Exactement.
T'es beaucoup là-dedans, toi encore, le cerveau reptilien puis les espèces de patterns de Cro-Magnon.
Ben, je vais m'intéresser, je vais regarder qu'est-ce qui fait encore du sens aujourd'hui. Je vais expérimenter, je vais regarder. Tu sais, par exemple, mettons, avant de faire un programme de coaching ou une formation ou quoi que ce soit, ben, je vais évaluer souvent avec plusieurs cas individuels, puis je vais regarder, OK, quelle graine semée de telle manière fait pousser tel type de comportement ou quoi que ce soit, puis après ça, je vois qu'il y a une tangente. Fait après ça, j'exprime mon monde, mais voici ce que j'ai observé, puis les gens sont libres par eux-mêmes de l'essayer quoi que ce soit, voir si on a les mêmes résultats. Mais ouais, c'est très, très basé sur de l'observation, là. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup aussi de lectures dans ma vie sur mon sujet qui fait en sorte que, tu sais, c'est pas juste basé sur « Ah, je pense telle affaire », mais tu sais, s'il y a 80 livres de lus sur un sujet, à un moment donné, tu fais des liens par du monde pas mal plus intelligent que moi qui ont fait des liens d'avance, là.
Et l'expérience aussi qui rentre en ligne
tout
de compte.
Tout à fait, ben oui.
C'est quoi que tu donnes comme conseil de base? On part où quand on a peur d'être authentique?
Pour n'importe quel type de peur, ce que j'aime des fois, c'est d'aller foncer dedans. En fait, il y a deux options. Soit tu fonces dans ta peur, puis je peux te donner un exemple personnel, quand même assez loufoque, mais quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement gêné, je m'exprimais mal, j'avais aucun entre-gens, puis pour moi, les autres êtres humains, j'étais pas capable. Puis je me faisais rejeter constamment. J'étais pas populaire avec autant les gars, les filles, tu sais, genre je pognais pas rien de ça. Et là, à un moment donné, c'était l'époque où est-ce que c'était l'heure de commencer à explorer l'univers des bars. Et moi, ça me terrorisait parce que je me sentais pas à la hauteur, pas digne d'être aimé, tout ça. Et j'avais extrêmement peur du rejet. Fait que pour moi, d'aborder peut-être une fille qui m'intéresse ou quoi que ce soit, puis de me faire rejeter, c'était littéralement, oublie ça, je ne veux pas vivre ça. Là. Fait qu'au lieu de me dire, même si je me fais rejeter, c'est pas grave, je suis allé dans l'extrême de rechercher volontairement ce qui me fait le plus de mal, c'est-à-dire je vais aller me faire rejeter volontairement. Pas je vais aller essayer que ça marche puis risquer que ça marche pas. Je vais aller faire en sorte que ça marche pas pour me désensibiliser des conséquences de ça. Fait qu'au lieu de me dire que j'ai peur, je me dis je fonce dedans. Fait que je m'étais mis comme objectif d'aller me faire rejeter par 100 filles. Fait que littéralement, mon but, là, c'était pas d'avoir l'air sympathique, c'était pas d'obtenir un numéro de téléphone. Mon but, c'était de me faire rejeter pour me désensibiliser.
Puis qu'est-ce que tu faisais dans tes comportements? Tu faisais exprès d'avoir des comportements weird ou tu étais quand même la meilleure version de toi-même?
Non, pas du tout. Mon but, c'était de me faire rejeter. Fait que j'arrivais, puis je pouvais aussi spontanément dire à une fille, « Hey, bonjour, je trouve que t'as l'air super intéressante, mais en ce moment, je suis en mode, je me fais rejeter. Fait que je vois juste m'auto-deny. Bye. Bonne fin de soirée. »
OK.
Genre aussi cave que ça. J'arrive avec une, tu sais, une approche.
J'ai pas l'idée, honnêtement.
Non, mais si tu l'abordes, t'es comme, hey, salut, je trouve que t'as l'air super intéressante, mais en même temps, je manque de confiance en moi. Ça doit être un turn-off majeur pour une fille. Je comprendrais si tu voulais me rejeter à l'instant. Je te demanderais même pas si tu veux que je te paye un verre. La réponse, ça va être non. Bonne fin de soirée. Puis je m'auto-dénaille, puis je m'en vais. Puis à un moment donné, tu survis à ça, tu sais. Puis tu te rends compte que ça devient presque cave, tu sais, parce qu'on en parle, puis c'est ridicule, en quelque sorte, de faire ça. Mais si justement tu fais la dissociation de ça fait peur et ça devient mais c'est ridicule, ça banalise un peu le phénomène. Parce que la première fois, mettons, t'as peur de plier quelque chose en prise de courant parce que tu dis, hey, ça va peut-être pogner un choc, tout ça. Puis là, aujourd'hui, on fait ça du coin de l'œil, nanana. Il n'y en a plus de stress, il n'y en a plus de peur, c'est rendu banal. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à force de banaliser le fait que je pouvais me faire rejeter, je suis devenu tellement confiant dans le fait que c'était pas grave que c'est ça qui m'a donné un charisme. C'est le fait que j'arrive avec aucune espèce d'attente ou de stress, fait que, une espèce de petite désinvolture, un laisser-aller, si on peut dire, qui rend en quelque sorte attachant, t'sais. Pas mal plus que quelqu'un qui arrive, qui est stressé et qui a peur du jugement ou de comment ça va paraître. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que je dirais au monde, foncez dans votre peur à l'extrême, peut-être pour vous désensibiliser. Mais encore là, il faut avoir les reins solides, tu sais, parce que si tu rentres dans ta peur à l'extrême puis que tu le fais juste deux fois, ben, tu guériras pas de ça. Il faut vraiment que tu y ailles, puis tu le répètes, puis tu le répètes, parce que c'est souvent une question de quantité. Tu sais. Fait que, si tu as peur du jugement des autres, fais un statut par jour sur exactement ce que tu penses, mettons. Puis au début, tu vas te faire critiquer quoi que ce soit, mais éventuellement, tu vas t'en foutre de te faire critiquer.
Je pense que sans répétition, c'est un bon volume, d'habitude.
Ça peut être un bon volume. Sinon, la deuxième chose, ça peut être d'avouer aux autres ce qui nous fait peur. Puis ça, c'est un truc qui est game changer. J'étais dans un événement de réseautage récemment, puis il y a une dame qui vient de Chine, un petit peu de difficulté avec son français, avec son anglais. Puis elle nous demandait conseil, genre sous forme de mastermind un peu, puis elle disait « Comment est-ce que vous pensez que je pourrais faire pour transcender cette peur-là quand je suis dans des réseautages parce que je veux pas que les gens, tu sais, me comprennent mal ou être mal interprétés ou dire quelque chose que vous, ça se dit pas? » Puis là, j'ai dit « Commence chaque interaction en nommant ta peur. Bonjour, je vais être honnête avec vous, j'ai peur de dire quelque chose de pas correct, j'ai peur d'être mal comprise. Tout le monde va être tellement plus compréhensif, tout le monde care plus, tout le monde. Pourtant, fait que tu viens de canceller la peur en la nommant. Tu viens d'y permettre d'exister librement parce que la peur est en lien avec l'incertitude. La peur est en lien avec l'inconnu. Parce que si tu connais ce qui s'en vient, tu n'en as plus peur. Si tu sais qu'il va y avoir un ours en camping en fin de semaine, tu te prépares adéquatement. C'est plus de la peur qui est question, c'est de l'anticipation, c'est très différent. Fait que si quelqu'un me dit « j'ai peur de parler en public », avant de parler en public, commence en disant « je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment peur de parler en public ». Adresse-le.
100%.
First thing.
Ouais, ouais. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis en ce moment. Ça a été quoi tes patterns de scène au début? Parce que la vidéo que tu m'as montré tantôt, c'était pas naturel.
Ouais.
Puis tu l'as dit toi-même. Puis tu fais beaucoup de scènes aujourd'hui, en conférence, là, bien sûr, pour voir de danseuses. C'est quoi tes trucs? Ou du moins, c'était quoi tes trucs au début? Là, à cette heure, ça doit être différent. Là, mais c'était quoi tes trucs au début, justement, pour les petits papillons? Puis... Il y a encore aujourd'hui un peu les papillons, I guess? On en a besoin, là, de ce... Pas de l'anxiété, mais comme de l'excitation.
Oui, c'est comme une espèce de drive intérieur au lieu d'être une anxiété, justement. Avant, je te dirais, moi, c'est un des conseils que j'ai reçus. Je me rappelle même plus c'est duquel de mes mentors, mais il m'avait dit « Don't prepare the speech, prepare the speaker. » Fait qu'au lieu de te concentrer sur « arrive avec la meilleure conférence possible », c'est « arrive et sois le meilleur conférencier possible ». Si tu travailles sur toi comme personne et que toi, t'es prêt, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe si t'étais là à ma conférence à l'événement The Influence, quand les slides marchaient pas, je faisais des jokes avec ça, j'embarquais avec le public, parce que le speaker était prêt. Donc même si le PowerPoint marche plus, c'est pas grave. t'es pas dépendant de ta béquille externe. Ça, ça avait été un conseil qui m'avait aidé beaucoup parce que je me disais, OK, c'est quoi, tu sais, une bonne conférence, si c'est la conférence qui est bonne, moi, dans le fond, après ça, si je veux en faire une deuxième dans le futur, ben, faut que je crée une autre bonne conférence. Tandis qu'à la place, je veux devenir le genre de personne que si tu me demandes de te compter hier mon lavage, je vais te le raconter d'une manière qui va être passionnante et, tu sais, je vais tout faire pour que mon storytelling soit digne d'un conférencier, tu sais. Fait que je pense que c'est ça le conseil numéro un que j'ai reçu et que je redonnerai à tous ceux qui veulent, tu sais, parler en public, quoi que ce soit. Se préparer en tant qu'individu pour se sentir solide in. Comme ça, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, t'es safe en toi.
C'est excellent. Puis c'est des conseils qui peuvent être aussi utilisés devant la caméra pour ceux qui veulent créer du contenu sur les médias sociaux. Tellement. C'est la même chose. Je pense que je rajouterais à ça de parler uniquement de choses que l'on maîtrise bien et que l'on connaît bien.
Exactement.
Parce que quand tu peux pas te faire surprendre, c'est vraiment plus facile de focusser à devenir un bon speaker. Parce que, je veux dire, la matière première, tu la connais sous le bout de tes doigts, right?
Le monde, souvent, ils ont de la misère avec leur confiance en eux. Parce qu'ils pensent que la confiance est quelque chose de global et de général alors qu'il existe des zones de confiance. Parce que, tu sais, si je te dis, parle-moi de comment tu as scalé ta compagnie, c'est sûr que tu as confiance. Tu sais, c'est sûr, tu commences à me dire ce que tu as fait, c'est comme si c'était ta poutine, tu connais ça. Mais si je te dis, parle-moi du rite d'accouplement des flamants roses dans tel pays, puis tu es comme, ben, automatiquement, tu n'es plus un bon conférencier parce que, comme tu viens de dire, tu ne maîtrises pas le sujet. Fait que, c'est tellement important, autant niveau conférence grand public que niveau réseaux sociaux, que le monde, exactement comme tu dis, ils deviennent maîtres de quelque chose le plus possible avant d'essayer d'en parler à grande échelle. Mais il y a un bémol que je veux faire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de monde qui bâche l'univers du coaching. Ou même de n'importe qui en ligne, tu sais, qui se met devant la caméra pour se filmer, parler d'un sujet. Il y a beaucoup de monde qui bâche ça puis qui dit « Ah, il y a trop d'influenceurs, il y a trop de ci, il y a trop de ça. » À partir du moment où tu es 10 % en avance sur quelqu'un dans un sujet X, tu es en mesure de l'aider. Fait que quand j'ai commencé à coacher au basket, par exemple, j'avais 14 ans, ben je coachais des jeunes de 10 ans. Est-ce que j'étais le meilleur au basket? Est-ce que je maîtrisais le basket? Pas du tout. Mais est-ce que j'étais apte à aider ceux qui n'étaient pas encore là? La réponse, c'est oui. Fait que c'est un peu la nuance que j'aimerais apporter dans le fait d'attendre de maîtriser quelque chose avant d'aider. Mais c'est d'avoir l'humilité de ne pas prétendre être capable d'aider tout le monde, si c'est pas vrai. Fait que quand j'ai commencé en coaching, est-ce que j'étais genre, ah, jour 1 de coaching, je peux aider Tony Robbins, je vais être le coach à Grant Cardone? Ben non, pas du tout. Mais au fil des années, au fil de l'expérience qui est rentrée, je sentais que mes outils se multipliaient, mes connaissances augmentaient, mes compétences se perfectionnaient. Et c'est ce qui a fait en sorte que de plus en plus, je me suis mis à coacher au début n'importe qui. Après ça, des salariés. Après ça, des travailleurs autonomes. Après ça, des entrepreneurs. Après ça, des CEO de grosses compagnies, des athlètes, des artistes. Parce que j'ai monté les marches progressivement en essayant jamais de me prétendre meilleur que ce que j'étais. Puis ça, c'est quelque chose d'important, que le monde accepte les étapes. Le monde se font pas confiance souvent parce qu'ils se lancent sur Internet puis ils essayent d'avoir l'air des kings le jour 1. Ils sont pas. Et c'est correct, là, y a rien de mal là-dedans, mais faut commencer quelque part.
Fait que de pas prendre une bouchée qui est trop grosse pour toi, là.
Exact, parce que sinon, ultimement, tu nuis à ta propre confiance parce qu'après ça, souvent, les gens vont essayer de vendre de quoi à du monde qui sont même pas aptes à servir encore. Fait que qu'est-ce qui se passe? Clientèle insatisfaite. Clientèle insatisfaite, tu doutes de toi, tu doutes de toi, tu travailles plus de la même façon. T'investis plus autant dans ta business, quoi que ce soit, puis tu penses que t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour ça. T'as juste essayé d'aller dans un marché que t'étais pas prêt à servir. Fait que, tu sais, si, mettons, là, je te donne un exemple. Au début de la compagnie, c'était juste un pré-workout que t'avais. Puis tu te disais, je vais m'arranger pour faire un bon produit, mettons, avant d'essayer de scaler trop vite puis de me ramasser avec une gamme de 16 produits qui sont moyens, finalement. Fait que c'est de faire les choses dans le bon ordre puis de pas avoir peur des étapes. Tu sais, 25 ans d'expérience, ça prend 25 ans à avoir, là. Il n'y a pas de shortcut pour ça.
Ouais, puis si tu n'es pas capable d'avoir un bon client satisfait, tu ne seras pas capable d'en avoir 100. Hein?
Exactement. Puis à partir du moment où tu as un client qui est semi-satisfait, partiellement satisfait, tu demandes son feedback. Tu demandes comment tu peux faire, t'améliorer. Ouais. C'est le monde oublie cet élément-là, mais c'est le meilleur moyen de progresser.
Ouais, puis c'est la même chose dans le réseautage. Avant qu'on rentre dans le réseautage, j'aimerais ça prendre un moment. Guys, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas, ça prend 17 secondes de votre temps. Le podcast grossit de bouche à oreille. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez le podcast et vous êtes sur Balados actuellement, on descend au premier épisode, on met 5 étoiles. Un commentaire écrit si vous êtes sur Spotify. Au-dessus du premier épisode, en dessous de l'image de mon podcast, il y a des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en 5. C'est ma seule demande spéciale. Le podcast est gratuit, va continuer de l'être. Et merci aussi au studio Les Remarqués, qui est magnifique, à Laval, qui est bien positionné. Et quelque chose que j'ai remarqué, parce que toi, t'en fais beaucoup de podcasts, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile d'inviter des gens à venir à Laval qu'inviter des gens à venir à Montréal. si la personne habite à l'extérieur de l'île de Montréal.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi tu penses?
Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui aiment pas ça conduire à Montréal ou qui ont peur de... Je sais pas.
Ah, moi, j'ai passé par Montréal, m'en venir à Laval.
Non, je sais, mais tu rentres pas dans... Tu comprends, t'es pas dans, dans les rues de Montréal. Là.
Ouais. Ah, c'est sûr.
T'es passé sur l'autoroute à travers Montréal.
Ben, j'avais des rendez-vous à Montréal. Fait que
bon, c'est ça.
Non, c'est ça, c'est différent.
Mais pour... Tu sais, toi, tu te promènes beaucoup, mais je trouve qu'en général, c'est plus facile. Ouais, anyway, sur les remarquer, c'est extraordinaire, le confort, la qualité. Le réseautage...
L'authenticité.
Oui, toujours, partout. T'sais, on parlait de faire de la scène, puis des conférences, puis les médias sociaux, mais allons aux interactions un à un. Tantôt, tu parlais de tes introductions que tu faisais exprès pour battre cette peur-là de te présenter un peu pas de mauvaise foi. Tu avais des bonnes intentions là, aux autres filles, mais ce serait quoi tes conseils à quelqu'un qui veut bien réussir dans une interaction un à un, que ce soit dans un bar ou que ce soit dans le monde des affaires?
L'authenticité. L'authenticité est la clé.
Genre... C'est stressé d'aller voir une fille. Ton opening, c'est la même chose que sur le stage tantôt de genre... Je ça lui juste te dire que ça me stresse quand même de venir te voir. Ça serait ouais. Ça ton open?
Littéralement.
Ouais, OK. Je peux, parce que j'imagine, ouais, c'est bon.
L'authenticité est un accélérateur de réalité. Ce qui doit être sera, ça va juste arriver plus vite parce que t'es vrai. Tu sais, mettons, là, combien de personnes sont en couple puis passent 9 mois trop dans le couple parce qu'ils n'osent pas s'avouer que c'est fini, mais ils se disent que telle affaire. Au final, le résultat est le même. Le couple, il se finit. Mais si t'avais été authentique, ça aurait été un accélérateur de réalité. T'as un employé qui commence à faire du trouble, nanana, éventuellement, il va peut-être falloir adresser la situation, t'es pas authentique, tu contournes, t'essayes d'éviter conversation avec cette personne-là. 4 mois plus tard, ça se finit encore plus mal. Avec l'authenticité, ça aurait été un accélérateur de réalité. C'est tout le temps ça. Mais pourquoi est-ce que les gens osent pas être authentiques? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des conséquences. Ils ont peur des conséquences de leurs actes, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Ils ont peur du rejet. Mais au final, c'est nous qu'on rejette, c'est nous qu'on empêche d'évoluer parce que toute évolution, croissance personnelle, professionnelle doit se faire sur des fondations de vérité. Sinon, c'est pas Julien qui évolue, c'est l'image que Julien a créée. La nuance est tellement importante. Si le monde ne sont pas vrais, mettons dans leur relation de couple, dans leur relation avec des employés, dans leur façon de traiter les gens, ou, exemple typique, le monde qui essaie de bâtir des relations d'affaires avec du monde dont il se calisse. Il y en a combien du monde qui se disent « Ah, faudrait que je devienne ami avec telle personne, ça pourrait être utile pour ma business » ou dans le monde des influenceurs qui vont être comme « Je vais faire une vidéo avec telle fille ou avec tel gars, ils ont tant d'abonnés, ça va être bon pour moi. » Si tu t'en fous de la personne, tu l'as jamais suivi avant, tu la suivras jamais après, tu consommes pas son contenu, tu t'intéresses pas vraiment, mais c'est juste une numbers game de genre tant d'abonnés et tout ça, principe d'association, c'est voué à l'échec sur le long terme. Parce que premièrement, le monde le sente que ces gens-là sont là pour ça. Ça bâtit pas des vraies relations réelles. Ça peut peut-être faire des petits coups de pub, de promo ici et là, mais c'est pas ça qui va faire une pérennité dans le temps. Fait que, quand on veut bâtir des relations d'affaires avec le monde, va juste vers le monde avec qui tu sens que tu peux être 100% toi-même. Il y a tellement de gens sur Terre. On n'est pas obligé d'avoir des relations avec du monde avec qui on sent qu'on peut pas être nous-mêmes. Il y en a en masse du monde intéressant, drôle, qui peuvent nous apporter professionnellement, personnellement, puis qui vibrent à la même fréquence que nous pour qu'on s'impose pas de vibrer sur une autre fréquence pour essayer de plaire à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, si jamais nous deux, on a du fun ensemble aujourd'hui, on vibre. Tu sais, la raison pourquoi je suis sur le podcast, parce que je sais qu'on s'entendrait bien hors onde. Tu sais?
Sinon, c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que sinon, je vois pas pourquoi je l'ai fait.
Ben, c'est ça. Sinon, c'est juste awkward, puis ça devient une espèce de donnant-donnant ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, moi, toutes mes relations sont utiles. Fait que j'apporte de quoi à personne, elle m'apporte de quoi, mais mes relations sont fucking nice aussi, dans le sens que, d'un point de vue humain, j'aime l'interaction avec cette personne-là. Sinon, hein, tu sais, le temps, là, chaque seconde qu'on perd avec quelqu'un, qu'on sent que c'est awkward, ça reviendra jamais. Là. Puis le temps, si t'aimes ta vie, perds pas ton temps, parce que le temps est ce qui constitue la vie. C'est tellement précieux.
Là, t'es le genre de gars qui a pas beaucoup d'amis, mais qui en a des hosties de bons, hein? Dans le sens que, avant que tu considères quelqu'un un ami, je parle. C'est
ouais.
Plus ça, mon truc.
Ouais.
C'est plus comme ça que je veux te...
Oui, je vais vraiment...
Le gap entre une connaissance et un ami doit être extrêmement large.
Oui, puis, mais par contre, même mes connaissances, même les gens, exemple, à qui je vais parler une fois par année, c'est du monde avec qui je vais avoir un lien extraordinaire. Parce que cette fois-là par année, elle va compenser, mettons, pour le 12 mois sans nouvelles. Parce que cette fois-là, tu sais, il y a du monde avec qui je catch up, mettons... Il y a certains de mes amis plus dans le même domaine que moi où est-ce que tu sais ils partent en tournée, je pars en tournée. Fait que tu sais, on n'a pas nécessairement le temps de connecter. Mais la fois dans l'année où ce que je fais, hey, je vais aller demander à David, je vais aller demander à François, je vais aller demander à Daniel où ce qu'ils sont rendus, on va prendre 45 minutes au téléphone, là. Puis on va se parler des vraies affaires, on va se donner des nouvelles, puis je vais être genuinely intéressé. Mais le monde avec qui je ne vais pas follow-up, it's OK, là. Même si la relation se dégrade, se détériore, c'est pas grave, parce que ceux avec qui j'ai envie que ça se maintienne, je fais quelque chose pour que ça se maintienne. Tu sais, n'importe quoi dans la vie que tu arrêtes d'arroser, ça arrête de pousser. Puis il y a des affaires qu'il faut accepter que ça arrête de pousser pour pouvoir prioriser les vraies relations, comme tu dis. Parce que, tu sais, les vraies amitiés, surtout rendues à l'âge adulte, tu sais, des fois, on parle aux amis de secondaire, ben tu sais, des fois, on fait pas juste les perdre à cause des déménagements, tout ça. Des fois, c'est on évolue pas de la même manière.
La vie fait les choses, ouais.
Exactement. Fait que, tu sais, des nouvelles relations, ben c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai déménagé sur la rive sud. Ça fait environ 4 mois, OK?
T'étais où avant?
J'étais à Montréal, mais avant ça, j'étais à Québec, puis avant ça, j'étais à Trois-Rivières. Fait que je me suis promené pas mal à travers le Québec. Puis là, j'avais beaucoup d'amis, ça arrive, non? Tu sais, Laval, tout ça, Sainte-Thérèse, peu importe. Blainville, Mirabel. Et là, quand je me suis ramassé, ça arrive sud, je me suis rendu compte, wow, OK, j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai des contacts, ça arrive sud, mais mon vrai noyau de gars avec qui j'appelle, hein, on va-tu prendre une bière, il était plus là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, en tant qu'adulte de 32 ans, j'ai pris le choix conscient de partir en mission de me faire des nouveaux amis. Puis littéralement, là, tu sais, je suis entouré des milliers de personnes sur Internet, tout ça, le monde dirait, il n'y a pas besoin de... Non, des vraies connexions sincères, c'est tellement important. Fait que j'ai écrit à tous les gars et les filles que je trouve qui sont vraiment sharp, des gens qui me font rire, des gens qui me font triper, qui m'inspirent, puis je leur ai dit, toi, là, quand tu penses à moi, y a-tu une personne dans ton environnement que tu te dis, ah, cette personne-là est fucking sharp, puis maudit qu'elle s'entendrait bien avec Manu? Premier nom qui te vient en tête. J'ai demandé ça au monde dans mon réseau. J'ai reçu des messages de, ah, il faut que tu rencontres Sean, faut que tu rencontres Louis-Xavier, faut que tu rencontres telle affaire. Ces contacts-là, je suis tout allé souper avec ces gars-là. J'étais allé souper, j'étais allé dîner, j'étais allé en bateau, j'étais allé genre connecter. Il y en a un qui m'a invité sur son podcast. Puis c'est toutes des vraies, genuinely belles rencontres que je suis. Fait que là, je suis rendu avec un réseau, ça arrive ça, grâce à cette action-là.
Wow!
En toute humilité, de j'ai envie d'avoir des nouveaux amis. C'est un besoin, je trouve ça le fun de connecter avec des gens sharp et tout. Puis c'est de. Tu sais, les gens osent pas, là. Tu sais, ils se promèneront pas dans la rue, puis hey, excusez-moi, monsieur, vous avez l'air vraiment cool. Est-ce que je pourrais comme commencer à vous parler? T'sais,
mais de la façon que tu l'as fait, toi, je trouve ça extraordinaire.
Puis je vois pas pourquoi le monde ne le font pas plus.
Ouais, 100%. C'est vraiment une bonne idée.
C'est, on perd à rien. Là. Puis c'est pas, il n'y a pas un Tinder pour amitié en affaires. Là. C'est pas, y a pas vraiment de système. Ben c'est pour ça qu'entre autres, moi, dans mon business model, dans mes groupes de coaching, je mise énormément sur les relations parce que je sais à quel point c'est précieux et à quel point c'est moins naturel pour les adultes de se faire des amis sharp. Parce que personne ne se promène dans la rue avec son T-shirt marqué « Hey, salut, je suis ouvert à me faire des nouveaux amis. » Ça fait que souvent, c'est une question de contact, puis de circonstances, puis de... c'est même dans les événements à cette heure où on pourrait rencontrer du monde, on reste souvent avec le monde qu'on connaît. Fait qu'au final, c'est très difficile de connecter. Fait qu'il faut faire le choix conscient de sortir de notre zone de confort, faire des actions différentes pour générer des résultats différents.
Je me souviens à e-influence parce que j'avais trouvé ça bon que ce que tu avais dit, que à un moment donné, t'étais comme, par l'événement ici, qui a un ami ou des amis, t'as peut-être la moitié de la salle qui avait levé la main. Tu avais dit « Good, quand c'est fini, allez parler à quelqu'un d'autre. » Ouais.
Ben oui,
je me souviens d'avoir fait comme « Chris, c'était bon ça. »
Ben oui, j'avais demandé au monde dans la salle qui est venu tout seul. Ouais, puis tous ceux qui ont levé la main en disant « Je suis venu tout seul », j'ai dit « Regardez-vous les mains levées, là, allez connecter. »
Ma mémoire, c'est le contraire de ce que tu as fait, mais c'était la même idée. Oui,
exactement. Puis c'était ça justement le but, c'est de rassembler les gens parce que t'sais, le contact humain, in the end, là, moi quand j'imagine ma vie dans le futur, je m'imagine... vieillard, paisible, sur sa chaise longue, quoi que ce soit, en train de juste profiter de la vie, ben je me vois avec du monde. Là. Tu sais, je me vois le cœur rempli des relations que je vais avoir bâties. Je me vois rire, sourire. Tu sais, je me vois pas en train de nager d'une pile de cash, puis juste, tu sais, comme... ou du moins, je vais nager avec mes amis dans pile. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment... c'est relationnel. Je trouve que l'être humain est une créature de relation, de connexion. Puis, tu sais, pour en venir un peu à l'épisode précédent que j'invite les gens à aller regarder, ceux qui l'ont pas vu, mais que dans lequel on parlait, tu sais, de c'est prendre une pause, les vraies affaires finalement. Si on sacrifie nos relations interpersonnelles dans le but de bâtir quelque chose, je pense qu'on passe un peu à côté de la vie. Ça, c'est une opinion, tu sais, c'est selon mon vécu, mon expérience. Mais l'amour, tu sais, sans rentrer dans le cliché, là, genre l'amour, le ressentir à tous les jours envers des gens, envers des causes, envers des produits, des services, des clients, ça prend de l'amour dans une vie pour se sentir vraiment riche en dedans. Fait que c'est ce que je recommanderais aux gens de faire le plus vite possible. Se demander comment ils peuvent faire pour intégrer plus d'amour dans leur vie.
Je suis 100% d'accord. J'ai des amitiés très fortes qui datent depuis très longtemps. J'en ai des récentes. Mais je suis pareil comme toi au niveau de l'importance que j'y accorde. Puis à quel point j'investis aussi temps et argent dans mes relations. Mm-hmm. Parce que aussi, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est quand tu te mets à avoir beaucoup de sous dans la vie, il y a un gap qui se crée entre ton lifestyle puis ceux de tes amis, des personnes que t'aimes autour de toi. Donc, à partir de là, tu dois faire quand même des choix de « Bon, j'ai bâti un lifestyle qui me permet de vivre ces activités-là. Ça serait cool qu'on les vive tous ensemble. C'est comprends que vous pouvez pas les payer. » Puis c'est là que je trouve que tu fais des choix à savoir, bon, avec qui je veux réellement investir ce temps et cet argent-là. Parce que là, tes activités,
tu payes pour eux,
te coûtent comme 3 ou 4 fois qu'est-ce qu'ils devraient coûter. Mais l'expérience, c'est...
C'est ça. Ah ouais, c'est exactement le même principe là. C'est récemment, j'étais allé à Paris avec ma blonde, puis tu sais, je savais que financièrement, ben c'était soit tu sais, je m'occupe du voyage puis tout, ou tu sais, je le vis tout seul. Mais comme moi, je veux vivre ça à deux, ou je veux vivre ça tu sais avec mes amis, des trips, des chalets, des affaires de même. Fait que je te file là, tu sais, à un moment donné. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut en faire de l'argent, c'est pour pouvoir entraîner le monde dans notre philosophie, dans cette life.
Mais entraîner le bon monde, puis le monde qu'on aime.
Ben oui, exactement.
Parce que je me suis déjà fait prendre à le faire pour faire plaisir, puis j'ai vraiment pas aimé cette expérience.
Non, c'est horrible. Puis il y a tellement de monde dans le monde, tu sais. On peut se permettre de pas être ami avec tout le monde. Il y en a du monde, tu sais.
Vraiment.
Puis un peu comme les opportunités qui se multiplient, plus on scale, plus on a des opportunités, mais plus il y en a des gens aussi qui veulent. Tu sais, moi, des fois, il y a des gens qui viennent vers moi, puis je le sens tout de suite. OK, cette personne-là, elle vient plus vers moi comme un opportuniste. D'autres personnes viennent plus... en mode genre, ils se cherchent un mentor. D'autres personnes viennent plus en mode égalitaire de « Hey, on pourrait s'apporter, ça va être cool, ça va être donnant-donnant. » C'est ça que je privilégie vraiment. C'est du monde à qui je sens qu'on va triper, on va rire. Tu sais, surtout rire. On en parlait beaucoup, là, on se faisait des jokes là, entre les podcasts, là, mais c'est tellement important. Si j'ai pas de fun avec une personne, si je sens qu'il faut que je retienne les jokes qui montent en dedans de moi, ah, ça va être longtemps. Là. Alors, la vie est trop courte pour garder les jokes en dedans.
Danu, c'était extraordinaire, man. Toi, c'est un podcast qui... Peut-être quelqu'un qui tape du pied au bord de la porte.
Yes.
J'ai adoré ce moment-là avec toi. J'ai adoré nos deux épisodes. Same. J'ai vraiment. Ça serait vraiment cool qu'on aille souper et qu'on prenne une coupe de verre ensemble. Pour vrai, je pense que les deux, c'est. Tu m'excuses, ça fait genre 5 fois que je me fais appeler. Non. J'ai vraiment, vraiment adoré ça, man. T'étais excellent. Puis ce que t'as apporté aussi, c'était très, 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 très bon. Puis que l'authenticité, t'as un accélérateur de réalité. C'est mon souvenir de l'épisode d'aujourd'hui. Ça va être probablement ça, le titre de l'épisode. Je trouve ça extraordinaire.
Je suis vraiment content. Tu me fais penser à un souvenir. Je sais pas si j'ai 2 minutes de partager quelque chose, là, mais on parle d'authenticité. Là. J'ai joint une chambre de commerce à Rive-Sud, justement, pour faire des nouveaux contacts, puis tout ça. Puis mon premier souper d'affaires, souper tournant, où on fait les tables, puis tout, c'est le temps de se présenter. Puis moi, ma pick-up line initiale, c'est moi, je suis ici, puis je me cherche un ami qui a un bateau.
Okay.
Puis comme, mais tu sais, c'est pas vrai, là. Mais tout de suite, je casse le monde qu'ils vont faire. Ah, il est con, je trouve ça drôle. C'est avec eux que je vais aller connecter. Le monde, il faut comme, il est bizarre, il est awkward, pourquoi il dit ça? Oublie ça, là. On va pas aller bâtir de quoi. Fait que tu sais, ce niveau d'authenticité-là, upfront, sauve tellement de temps ensuite. Puis comme de fait, il y a un gars que j'ai rencontré ce soir-là, il vient me voir, puis il dit, j'ai un bateau. Puis là, tu sais, on a full connecté, puis on a vraiment eu du fun. Puis comme de fait, tu sais, je vais aller en bateau avec. Mais tu sais, c'est à partir d'une joke, là. Mais finalement, ça crée une belle amitié. Fait que c'est d'oser, je pense. Oser être soi-même. Oser aller au-delà des apparences. Puis juste faire confiance que la vie est bien faite. Puis that's it.
Je trouve ça bon avoir une espèce de pick-up line pour tester quelqu'un tout de suite. Puis pas avoir à attendre.
Des fois, je dis que je suis coach de mort. Au lieu de coach de vie. Juste voir la réaction.
Si tu imagines bien faire ça en plus.
Ouais. Si quelqu'un répond, ah, OK, ben, tu vois qu'il n'est pas intéressé. Tu sais. Normalement, c'est censé susciter des questions. Si la personne n'en a pas, tu vois qu'elle s'en fout. Next.
J'adore ça. Allez suivre Manu. Manu Lemire avec un petit crochet bleu. Il paye 19,99 pour l'avoir.
Tu sais, ta job, tu vends de la poudre, c'est ça?
Exact. Puis des pilules aussi.
Oui, de la poudre, des pilules.
Les deux, c'est important. Ça va ensemble. Merci à tous. Je vous aime. N'oubliez pas le 5 étoiles. Faites-le maintenant. Et merci au studio Les Remarqués.